9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va tâcher ce matin de conforter les principes républicains en commençant par la liberté avec la philosophe Monique Kantos-Perber qui est en direct avec nous ce matin dans ce studio. Bonjour Monique.
Bonjour.
Il y aura ensuite Cédric Herrous. C'est grâce à lui que le Conseil constitutionnel a consacré le principe de fraternité, mettant fin à ce que l'on appelait le délit de solidarité envers les étrangers en situation irrégulière. Et enfin, avec Claudia Sénic, la spécialiste en France de l'économie du bonheur, on va voir si la liberté, l'égalité, la fraternité sont consubstantielles au bien-être des Français. Monique Kantos-Perber, vous êtes philosophe, vous avez dirigé l'École normale supérieure de 2005 à 2012, vous êtes l'auteur de « La fin des libertés » qui est paru en 2019 aux éditions Robert Laffont. Ces libertés, elles ont été réduites comme jamais cette année face au Covid, au terrorisme ou dans le cadre de la loi de sécurité globale. On a l'impression que l'on est de plus en plus nombreux à être prêts à les sacrifier, les libertés.
Bien, il faut dire que la période est particulièrement lourde de menaces. Alors, si vous voulez, c'est une sorte de réflexe conditionné. Pour parer au plus pressé, on diminue les libertés, comme si c'était la solution universelle. Mais de plus, on constate une forme de consentement, d'accoutumance. La manière dont a été accepté un certain nombre de restrictions de liberté, d'aller et de venir, d'entreprendre, alors que ça ne se faisait pas dans d'autres pays européens, de la même façon, ça pose des questions. Donc, parfois, les restrictions de liberté sont nécessaires quand c'est pour sauvegarder des biens publics auxquels tout le monde croit. Mais il faut qu'elles soient limitées, précises, avec un objectif défini. Ce qui m'inquiète, c'est la tendance aujourd'hui à supprimer des libertés ou à les restreindre, mais de manière forfaitaire, préventive, comme une sorte de parapluie de protection pour toutes les menaces qui pourraient se présenter, pour tous les dangers que nous devrions affronter. Ça, c'est une tentation à laquelle il faut résister.
Il fut un temps, quand j'étais adolescent, je me souviens qu'à peu près toutes les lois, ou en tout cas la plupart des lois, nous autorisaient à de nouvelles choses. Aujourd'hui, enfin depuis un certain nombre d'années maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une loi, c'est pour nous interdire quelque chose.
Mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'objectivement, nous avons de plus en plus de capacités d'action. Nous pouvons voyager librement, nous pouvons faire un certain nombre de choses, marier entre personnes de même sexe, etc. Mais par ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Les personnes ont le sentiment de liberté restreinte. Alors à quoi c'est dû? C'est dû d'abord au fait qu'il y a une très forte normalisation des comportements. Un contrôle sur les manières d'être, sur la manière de se comporter qui n'avait jamais existé auparavant. Ensuite, il y a des phénomènes de surveillance massive qui ont été mis en place avec recueil des métadonnées et dans des circonstances dramatiques et inquiétantes. Ce sont évidemment des choses accrues. Et même si les personnes croient que n'ayant rien à cacher, elles n'ont rien à craindre, elles ont quand même tout le sentiment que ce n'est pas d'elles que dépend la définition de ce qu'il y a à cacher, mais c'est le pouvoir en place. Et puis enfin, l'évolution de nos modes de gouvernement, de plus en plus resserrés, de plus en plus parfois obligés de prendre des décisions d'urgence, la multiplication des états d'urgence, nous avons vécu depuis 5 ans, presque, au moins 3 ans en état d'urgence, fait qu'il y a ce sentiment de restriction de liberté qui est très profondément vécu et avec l'impression que il n'y aura pas de retour en arrière, que c'est irréversible.
Mais en même temps, c'est accepté, peut-être parce que, je crois que c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, que nous étions fatigués de la liberté. Vous avez employé cette expression, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. C'est une idée que Raymond Aron avait déjà avancée. Mais vous savez, c'est une idée même au fond assez banale. Le régime normal pour gouverner les hommes, c'est l'autorité. Et c'est la surveillance et c'est le contrôle de tout le monde. La liberté, le libéralisme, le fait de pouvoir vivre libre en contrôlant à tout instant, en limitant le pouvoir de l'État ou le pouvoir de ceux qui nous gouvernent, c'est une grande conquête qui a commencé au XVIIe siècle avec les libertés parlementaires et qui est peut-être en train de s'achever. Si vous voulez, on observe l'état du monde avec lucidité, on n'a pas à le déplorer, ce n'est ni bien ni mal. Il est possible que la grande époque du libéralisme politique, où on cherchait à contrôler, à limiter le pouvoir, est arrivée à son terme parce que les dangers, les défis sont trop importants ou parce que tout simplement, nous n'en voulons plus. Nous n'avons plus le courage, la capacité d'investir tant d'efforts pour conquérir nos libertés. Nos libertés ne sont pas une concession du pouvoir dans le libéralisme politique. C'est une conquête permanente. Il ne faut jamais baisser la garde. Ce n'est pas le régime le plus ordinaire ni le plus normal. C'est une conquête exceptionnelle Et je doute que nous ayons encore conscience de la valeur qu'elle représente et tout ce qu'elle exige comme effort.
Mais justement, on a vécu pendant toute cette année l'épidémie de Covid, mais si on se reporte en 1969, il y a eu la grippe de Hong Kong qui a fait à l'époque 30 000 morts en France. Le gouvernement n'avait rien fait. Hein. C'était une époque où on pouvait encore facilement sacrifier une partie de sa population. Mais imaginons que le président de la République de l'époque, Georges Pompidou, ait songé à nous confiner, par exemple, ou à fermer les boutiques, ou à nous interdire de nous rassembler, à fermer les églises, donc à mettre fin à la liberté de culte. Est-ce que vous pensez... Alors, je pense qu'il n'aurait même pas pu l'imaginer, mais je pense que personne ne l'aurait accepté non plus à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons l'accepter. Nous sommes plus responsables, entre guillemets.
Mais c'est difficile à dire si nous l'aurions accepté ou pas, si nous avions vécu à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé dans le consentement et apporté à cela, c'est qu'il n'y avait pas eu quand même de véritable débat avant. D'abord, en particulier, la mise en place de l'état d'urgence soldait l'impréparation de ceux qui nous gouvernent. Et c'est ça le problème avec ces mesures discrétionnaires et d'une certaine façon exceptionnelles. Ce sont des mesures d'exception. C'est qu'elles excusent la mauvaise gestion, si vous voulez. L'épidémie de Covid, on sait qu'elle va arriver. On savait qu'elle allait arriver en France dès le mois de janvier. Apparemment, aucune mesure n'avait été prise pour nous protéger, alors que c'était le cas dans d'autres pays européens. Donc ensuite, on recourt dans la précipitation à un état d'urgence, de privation de liberté. Donc si vous voulez, ce recours, d'une certaine manière, finit par influencer toutes les modes de gouvernement. Alors je pense que dans les années 70, ce qui se serait passé, c'est d'abord que nous n'avions pas les outils de prévision que nous avons aujourd'hui, et nous n'avions pas ce culte de la précaution. D'une certaine manière, parce que c'était vraiment la fin de la période d'après-guerre, les personnes avaient le sentiment que la vie était une forme de risque et que cette aspiration à la sécurité, à la protection, n'était peut-être pas aussi développée que maintenant. Et il y avait aussi le sentiment, parce qu'on était encore à l'époque du communisme, de vivre dans un monde libre, ça correspondait à quelque chose, un engagement de tous les instants qu'il fallait défendre. Donc d'une certaine manière, même si la société était beaucoup plus figée, avec des beaucoup plus traditionnaliste que maintenant, c'était un véritable enfermement pour les jeunes, en tout cas, d'où l'explosion de 68, avec de très fortes relations d'autorité, il reste qu'il y avait un sens extrêmement individuel, profond, un attachement à la liberté qui s'est d'ailleurs manifesté de manière spectaculaire à partir avec le mouvement de libération des mœurs.
On se retrouve dans un instant, Monique Cantos-Perber.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec la philosophe Monique Cantos-Perber. On a connu plusieurs attentats cette année, Monique Cantos-Perber. On avait connu dans les années 80 des vagues d'attentats moins meurtriers, mais quotidiens, on s'en souvient. À l'époque, ça n'avait donné lieu à aucune loi, aucune nouvelle loi, aucune modification de la Constitution. Depuis quelques années que nous subissons ces attentats à répétition, le nombre de lois que nous avons votées qui toutes ou presque ont réduit nos libertés.
En effet, mais ce qui caractérise aussi les attentats des années 70-80 est quand même lié à la situation du Moyen-Orient ou alors les contre-coups de ce qui se passait avec la fraction armée rouge en Allemagne ou le terrorisme italien. Mais était dû au fait que, si vous voulez, on avait quand même affaire à des révolutionnaires professionnels qui étaient parfaitement organisés. Il y avait en quelque sorte des cellules à désamorcer. Donc ça, les moyens de lutte étaient des moyens de lutte confiés aux services de renseignement, aux infiltrations. Il y a tout ce qui permettait d'inciter à la repentance des terroristes impliqués. Aujourd'hui, on a quand même affaire à un phénomène terroriste assez différent, c'est-à-dire c'est tout un chacun. Ça peut être des personnes qui ont été élevées en France, qui n'étaient pas spécialement engagées, qui se transforment quelques jours, quelques mois, quelques années, en de redoutables meurtriers. Donc c'est peut-être le fait que le terrorisme est beaucoup plus... les acteurs du terrorisme sont beaucoup plus parmi nous, qui fait que ce qui a été utilisé, et votre remarque et votre question est vraiment cible un problème très important, c'est qu'on pratique ce que j'appelais tout à l'heure le réflexe conditionné de la suppression de liberté. Parce que, précisément, comme ils sont parmi nous, il faut surveiller tout le monde. Autrefois, on s'occupait des suspects, c'est-à-dire ceux qu'on avait des raisons d'identifier comme personnes à risque. Aujourd'hui, la première privation de liberté se traduit par le fait qu'on pratique la surveillance massive. en quelque sorte, on surveille tout le monde pour voir s'il y aurait parmi tous ceux qu'on surveille une raison, qu'on avait vraiment des raisons, des motifs de surveiller. Donc une surveillance massive, indiscriminée, et surtout une surveillance préventive. Ça, ce sont trois caractéristiques qui changent complètement le régime de surveillance et de contrôle social des citoyens. Il est évident que quand on pratique la surveillance préventive et du contrôle indiscriminé, eh bien, là, on porte atteinte de manière extrêmement forte aux libertés.
On l'a vu au procès de Nicolas Sarkozy, quand le parquet national financier a écouté les conversations de Nicolas Sarkozy avec son avocat, mais il a également épluché les fadettes de plusieurs avocats qui n'avaient rien fait pour trouver la taupe éventuelle qui avait révélé à Nicolas Sarkozy qu'il était écouté. Si vous appelez un avocat aujourd'hui, la police, les juges peuvent être au courant, ils peuvent enquêter sur vous. Mais là, on était dans le cas exact que vous signalez, c'est-à-dire des avocats qui n'avaient rien fait ont été écoutés au cas où.
Donc, alors, là, pour ce qui a trait au procès Sarkozy, il est en cours. Appel a été fait. Enfin, là, le jugement n'a pas encore été prononcé. On a entendu que le réquisitoire. Nous verrons ce qu'il en est. Il est vrai que ce procès, quand même. Moi, je ne connais que ce qui en est dit dans la presse, plonge dans la stupéfaction, parce que les faits, on peut peu douter que les faits soient reprochés à l'ancien président, soient tout à fait constitués. Mais enfin, là, je n'ai pas, encore une fois, accès à l'intégralité du dossier, donc je ne peux pas prononcer. Mais d'abord, il y a eu les écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Là, on est quand même dans une procédure normale. On a des motifs de soupçon, donc on cible deux personnes et on les surveille. Quand il y a une autorisation d'un juge, c'est tout à fait dans le cadre de la loi. Ce qui a été plus surprenant dans ces écoutes, c'est qu'elles n'ont rien donné dans un premier temps et elles ont été prolongées à plusieurs reprises. Et c'est évidemment, comme disait Fouquet-Tinville, donnez-moi un innocent et 15 jours, je vous l'envoie à la guillotine. C'est-à-dire que quand on écoute en permanence, on finit toujours par trouver quelque chose. Et comme on veut absolument trouver quelque chose, eh bien, on se met à interpréter et peut-être à aller au-delà de la matérialité des indices que l'on a. Alors, il y a déjà cette chose-là. Le renouvellement des écoutes pouvait poser question, mais enfin, elle a été validée. Il a été validé. Et puis, par ailleurs, il y a eu l'enquête préliminaire qui a été lancée par le PNF pour examiner les fadettes des avocats, pour voir s'il y avait eu des conversations avec, en particulier, M. Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui aurait évidemment fait peser les soupçons sur une personne comme étant la taupe, ayant informé le président, l'ancien président et son avocat. Là, on a quand même affaire à des mesures exceptionnelles. Elles ne sont pas illégales, d'ailleurs, elles ont été reconnues conformes, mais elles sont tout de même exceptionnelles et elles montrent à quel point nous entrons dans une politique du soupçon et peut-être même une justice du soupçon, ce qui est plus inquiétant.
Vous êtes en train de terminer un livre sur les libertés d'expression. Dieu sait s'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les libertés d'expression en France. Monique Cantos-Sperber, je vous inviterai pour venir en parler dès que le livre paraîtra. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant avec Cédric Héroux.
C'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
On a beaucoup parlé ces derniers temps de la loi confortant le respect des principes républicains, mais parmi ces principes, il y en a un qu'on oublie tout le temps, c'est la fraternité. Cédric Héroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur, vous élevez des poules, vous produisez de l'huile d'olive dans la montagne, près de la frontière italienne. Et si le Conseil constitutionnel a consacré récemment le principe de fraternité, qui est bien un principe républicain, c'est parce que vous l'avez saisi et qu'il vous a donné raison contre l'État français. Est-ce que vous êtes fier de vous ?
Honnêtement, oui. Oui, c'est une belle bataille, mais grâce aux avocats et puis à cette possibilité pour tout citoyen d'interpeller la justice, d'interpeller le Conseil constitutionnel et pour lui demander, poser des questions. C'est bien qu'il y ait des barrières, des garde-fous pour préserver notre démocratie. Ouais.
Vous racontez vos aventures dans un livre intitulé « Change ton monde » qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent avec une préface du prix Nobel de littérature, JMG Le Clésio en personne. Vous l'avez rencontré ?
Pas encore, on s'est eu au téléphone et avec le confinement, c'est assez compliqué de se revoir. Mais j'ai demandé à M. Le Clésio d'écrire la préface qu'il a acceptée avec plaisir. C'est qu'il a été en fait accueilli dans un village près de chez nous, dans la vallée de la Vésubie. Et c'est une histoire en fait qui comprend en fait d'être caché, d'être persécuté. Donc, il a connu ça petit, quoi. Donc, ça lui a fait plaisir en fait de participer à ce livre.
Alors tout a commencé pour vous en 2016. Vous voyez une famille, le père, la mère et deux enfants marcher la nuit le long de la route. Vous les avez pris à bord de votre fourgonnette et vous les avez fait dormir chez vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous vous décrivez, vous n'êtes pas un militant, vous n'êtes pas un idéologue.
La question peut-être c'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas en fait. Et c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit pourquoi pas. Et vous savez, moi je suis né dans un quartier populaire qui s'appelle l'Ariane, un quartier niçois. Et j'ai été éduqué à être indifférent de la différence. J'ai été éduqué à vivre avec, en partageant ma chambre avec des enfants, des Noirs, des Arabes, des étrangers. On appelle ça des quartiers populaires. Et du coup, depuis Paris, on nous demande, nous, citoyens de la frontière, de la Vallée de la Roya, on nous demande de nous taire, de fermer les yeux, de détourner le regard qu'on voit des Noirs en bord de route. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, et pourquoi justement obéir à qui je suis, en fait, pour déterminer la situation administrative des gens, qui je suis pour dire toi oui, toi non, juste par la couleur de peau ?
Par la couleur de peau, plus exactement, par les papiers. Parce que c'est pas la couleur de peau qu'on chasse à ce moment-là.
J'ai jamais demandé des papiers à des gens avec que j'ai pris en stop.
Voilà, c'est ça. En fait, vous avez commis un délit, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait d'aider directement ou indirectement un étranger à entrer, à circuler ou à séjourner irrégulièrement en France. Il y avait un article permettant l'immunité pénale dès l'instant où l'on hébergeait un étranger en situation irrégulière sans contrepartie pour des raisons donc humanitaires. Mais cette immunité n'existait pas si on l'aidait à entrer et à circuler en France, même sans demander rien en contrepartie.
Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, on ne définit pas ce que ça veut dire la frontière. Mais souvent, c'est la grande mode en ce moment. Hein. C'est le grand mantra, la grosse prière unanime. C'est fermons les frontières, mais on ne parle pas de quelle frontière. Et on a oublié Schengen d'un coup comme ça. Et ce qui est inquiétant, c'est que dans les lois, c'est marqué passage de frontières, mais dans l'espace Schengen, la libre circulation, la Convention de Genève. Et si on lit le droit international, c'est pour ça qu'après on fait du droit, soit on fait de l'idéologie, on peut en faire là, dans un plateau de radio, mais on ne fait pas d'idéologie dans un tribunal, devant un tribunal, on fait du droit pénal. Et c'est pour ça que j'étais relaxé. C'est que si on lit le droit pénal, le droit international, la frontière, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire la frontière entre la France et l'Italie dans l'espace Schengen ? Ça ne veut rien dire. Et surtout la protection de l'obligation pour la France d'entendre le droit d'asile, la Convention de Genève. Alors après, il y a des solutions. Soit on sort de l'espace Schengen, pourquoi pas ? Soit on bafoue la Convention de Genève, et pourquoi pas ? Mais à un moment, il faut avoir une position ferme là-dessus. On ne peut pas un peu naviguer entre deux comme ça, quoi.
Oui, c'était pas clair. C'est le moins qu'on puisse dire.
Absolument pas clair.
C'était pas clair. Vous avez d'ailleurs été arrêté et condamné à de nombreuses reprises. Mais vous avez continué, quitte à perdre ma liberté, dites-vous dans votre livre. C'est ça qui est fou dans votre histoire, parce que vous êtes plutôt un solitaire, retranché sur son rocher. C'est comme ça que vous vous décrivez. Et puis là, tout à coup, vous allez vous engager. Vous le dites dans votre livre également. Hein, les hommes passent encore. Ils pouvaient se débrouiller et faire 20 km à pied. Vous parlez des migrants, là. Mais les femmes et les enfants, en revanche, les plus fragiles, je devais les aider, au moins les conduire en gare pour qu'ils puissent avancer.
Ouais, vous savez, c'est troublant de se sentir responsable. Et vous savez, c'est vrai que c'est compliqué parce que depuis cette ville, là où je suis, depuis Paris, la frontière, c'est loin. À l'autre bout de la frontière, c'est le pays étranger, donc l'Italie. Mais nous, on habite dans un endroit où on ne contrôle plus à la frontière depuis les années 85. Hein. Il n'y a rien d'étranger d'aller en Italie. Et nous, on y va comme ça, sans faire attention, sans y prêter garde. Donc moi, pour aller à Nice, je descends ma vallée de la Roya, j'arrive toujours dans la vallée de la Roya, mais en Italie, je prends l'autoroute et j'arrive à Nice. Et on a oublié un peu tout ça. Et d'un coup, à Paris, on décide, tiens, on va fermer les frontières sous prétexte de lutte contre le terrorisme. On sait très bien que ce n'est pas une lutte contre le terrorisme, c'est une lutte contre les migrants eux-mêmes. Et on se retrouve avec des gens, et l'Italie, ce n'est pas du tout prête à ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de camp humanitaire pour les héberger, il n'y a rien fait pour les enfants, il n'y a rien fait pour les familles. Et nous, on se retrouve là, dans notre vallée, avec des gens bloqués, des gamins. Autant, comme je disais, autant les mecs de 25 ans, ils savent marcher, comme moi, je sais marcher, ils peuvent se débrouiller tout seuls, parce que je me débrouille tout seul. Mais ma mère m'a toujours appris l'obligation de l'adulte de protéger l'enfant. Et c'est marqué aussi dans nos lois, hein. de ne pas laisser un enfant et une famille comme ça en déperdition au bord des routes.
Les condamnations se sont enchaînées dès le mois d'octobre 2016. Votre camionnette est saisie, on vous interdit de quitter le département des Alpes-Maritimes, on vous interdit de conduire un véhicule. En février 2017, 3 000 euros d'amende pour l'aide à l'entrée et à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France. En mai, plusieurs postes fixes de gendarmes mobiles sont installés autour de votre ferme pour contrôler les allées et venues. On vous condamne à des amendes, à la prison, avec sursis, mais on vous place en rétention judiciaire. Tout ça va durer 2 ans. Hein. Et pourtant, vous continuez.
Ouais, ça durait longtemps. Hein. Ça durait de 2016 jusqu'à 2019, même toujours maintenant. Quoi. Enfin, on fait quand même attention à ce qu'on fait. Et même si j'ai arrêté les contrôles, les passages de frontières avec les gamins assez rapidement, en fait, ce qui a dérangé le ministère public, hein, donc le parquet de Nice et de Grasse, c'est pas le fait que j'héberge des petits noirs, hein, ils s'en foutent de ça. Hein. Ce qui a dérangé, c'est que je dénonce les irrégularités d'État. Ce qui est très troublant, c'est qu'on demande aux citoyens de respecter le droit, mais l'État demande à la police et donne des ordres à la police. C'est pour ça que j'ai pu me rapprocher des policiers et avoir un bon rapport avec eux. C'est qu'on leur a prouvé que leur action était illégale.
Vous allez saisir le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel vous donne raison. Il reconnaît la valeur constitutionnelle du principe de fraternité qui figure bien dans la Constitution. Il déclare qu'il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Et cela concerne toutes les aides apportées à des femmes humanitaires, à des étrangers en situation irrégulière, même si vous les aidez à entrer ou à circuler sur le territoire français. Et de ce fait, toutes vos condamnations ont été annulées.
Ouais. Surtout que l'infraction n'était pas matérialisée. C'est ça qui est troublant. C'est que pendant le procès de Lyon, et le juge a été très choqué quoi, du dossier, c'est qu'il n'y a aucune matérialisation des faits. En fait, la seule matérialisation, c'est des articles de presse. Ce qui a dérangé le ministère public, ce n'est pas mes actions, c'est les articles de presse. C'est d'avoir dénoncé tout ça. Et on m'a reproché d'être un idéologue, etc. Et je lui ai dit au procureur, je fais l'idéologue, c'est qui là-dedans ? Vous me demandez de matérialiser ma défense alors que vous n'êtes pas prêt à matérialiser vous, mon inculpation. En fait, on a intégré le principe de fraternité dans la Constitution pour changer la loi, mais on ne s'en est même pas servi. Parce qu'on a dit, en fait, matérialiser l'infraction, ils n'ont pas pu.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a précisé que le principe de fraternité doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public, qui est également un objectif à valeur constitutionnelle. Ça veut dire que ça ne donne pas aux étrangers un droit absolu d'entrer dans notre pays. La France a le droit de lutter contre l'immigration irrégulière.
Oui, mais cette loi, elle a été encore mal écrite. Enfin, je suis désolé. Mais en fait, on ne parle pas, comme je disais tout à l'heure, de quelles frontières on parle. Si on lit Schengen, la migration ne peut pas être considérée comme un trouble à l'ordre public. Et c'est pour ça qu'elle est gérée avec les pays membres pour gérer les frontières externes à l'Europe. Là, c'est attaquable aussi. Il y a une copie-pièce là-dedans parce qu'elle est mal écrite. Donc, on ne parle pas de quelle frontière. Voilà. C'est quelle frontière on parle ? Est-ce que c'est interne à Schengen ou est-ce externe ? On ne sait pas. Et c'est toujours le même doute.
Merci Cédric Héroux.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Change ton monde, qui vient de paraître au Lien qui libère, avec une préface, je le répète, de JMG Le Clésio. On se retrouve dans un instant et on va parler économie du bonheur.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Claudia Sénic.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, directrice scientifique de l'Observatoire du bien-être et vous êtes la spécialiste française de l'économie du bonheur. Vous avez d'ailleurs consacré un livre au Seuil en 2014 à cette discipline, un livre intitulé « L'économie du bonheur ». Le bonheur français, est-ce qu'il est indissociable de l'égalité ? Est-ce qu'on a l'air d'être obsédé par l'égalité en France ?
On y pense beaucoup, on a du mal à accepter des traitements différenciés. On voit bien là, avec le confinement partiel, enfin pourquoi eux et pas nous ? Voilà, il n'y a pas de raison. On accepte mieux, à la limite, une mesure très très radicale, du moment qu'elle est uniforme, plutôt que des choses plus nuancées, mais qui touchent les gens différemment.
Pour bien comprendre l'économie du bonheur, elle s'intéresse alors non pas au comportement des acteurs économiques, mais à leur ressenti, hein, c'est ça ?
Oui.
Et à travers l'Observatoire du bien-être, vous pouvez faire des études pour savoir comment ça se passe. J'imagine que vous en avez fait beaucoup cette année, en 2020, parce qu'on a vécu pas mal de choses intéressantes, non ?
On a un baromètre, ouais, qui tous les trimestres, on mesure le bonheur, la satisfaction dans la vie, l'optimisme des Français.
Et c'est lié à quoi le bonheur ? En France, par exemple ?
Ah, c'est lié à la conjoncture, par exemple. Au moment du déconfinement, il y avait un sursaut de bien-être et de satisfaction absolument incroyable. Et sinon, de manière plus structurelle, c'est lié au lien social. Quand on regarde cette grande enquête, le rapport sur le bonheur dans le monde qui sort quasiment tous les ans, le truc qui est vraiment différenciant, c'est avez-vous quelqu'un sur qui compter ? Et ça capture en fait, comme on dit, le fait d'être intégré, d'avoir des gens, d'avoir un milieu social. Donc le lien social, bon après le revenu, il faut quand même le dire, le revenu parce que l'argent, c'est la liberté. Ça permet de choisir, de faire ce qu'on veut, ce qu'on consomme, ce qu'on fait de son temps. Et puis après, le fait d'avoir un travail, très important. Ensuite, la gouvernance, c'est-à-dire les institutions, démocratiques ou pas, la liberté, le sentiment de pouvoir choisir être libre de ses choix, d'avoir le contrôle sur sa vie, et ainsi de suite.
Le malheur français. On dit que les Français sont... Il y a un malheur français, vous-même, vous l'avez dit.
Vous avez dit,
il y a quelque chose à revenu égal, à liberté égale, à emploi égal. Le Français va être moins heureux, au moins pour 20% moins heureux que son voisin européen.
C'est ce que j'avais trouvé, ce que j'avais observé, en fait, avec surprise d'ailleurs. Ben oui, le malheur français, on peut l'interpréter de diverses manières. Certains ont dit heureux d'être malheureux. C'est l'esprit critique, en fait. C'est aussi un trait national. Bon, après, il y a une certaine dose de nostalgie aussi. En France, par exemple, dans notre enquête, on demande aux gens à quelle époque ils auraient voulu vivre. On leur dit, si vous aviez pu vivre à une autre époque, à quelle époque vous auriez voulu ? Donc les années 50, 60, 70, 80, 90, ou alors beaucoup plus loin dans le passé, ou bien dans l'avenir. Bon, déjà, personne ne veut vivre dans l'avenir. C'est quand même bizarre, parce qu'il y a quand même un progrès technique constant. Et tout le monde veut aller dans les années 80, mais indépendamment même de l'âge. Donc il y a une sorte de mythe, je ne sais pas ce que c'est que les années 80, c'est quand la France était encore un peu dans son jus, avant la mondialisation, la concurrence, Internet, etc. C'était encore un peu... un modèle un peu particulier peut-être.
Le modèle français, au fond, on a la nostalgie de notre singularité, c'est ça ?
C'est un peu flou, parce que c'est les années 80, mais c'est aussi la belle époque, c'est aussi la révolution, la francophonie, enfin tout ça c'est un truc mythique dont on a la nostalgie.
Vous parlez du lien social, Claudia Sénic, le fait qu'on n'a pas envie d'être isolé. Là, pendant le Covid, il y a eu le télétravail.
Oui.
Est-ce qu'on a souffert justement parce qu'on était isolé ?
Avant cette histoire d'épidémie, le télétravail, c'est une chose que les salariés demandaient et que les employeurs n'avaient pas trop envie d'accorder. Ils avaient l'impression que quand on travaille chez soi, on ne fait pas que travailler. Pendant le confinement, les gens étaient obligés, ceux qui pouvaient, de travailler chez eux. Le premier confinement, c'était une sorte de parenthèse. Ah, c'est complètement inhabituel, ça n'est que pour un temps, donc on fait autrement, et les gens étaient très contents. Puis en plus, il faisait beau. Le deuxième confinement, c'est l'horreur. Donc le télétravail, c'est la perte des liens, la perte de la reconnaissance de ce qu'on fait par les autres, la perte de l'intégration, de l'inclusion sociale. Et puis aussi, j'ai l'impression que c'est aussi la perte de l'importance du travail en tant que tel, parce que en fait, il y a un sociologue qui s'appelle Erwin Goffman, qui a une théorie qui s'appelle interactionniste. Donc son idée, c'est qu'on a chacun plein d'identités multiples, et chaque identité s'active au cours de l'interaction dans laquelle on est. Par exemple, là, je suis, chercheur. Et puis tout à l'heure, je serai, maman ou...
Quand vous allez rentrer chez vous.
On ne sait pas trop, c'est pas encore. Mais en tout cas, l'identité s'active au cours de l'interaction et elle devient prioritaire et prédominante. Donc quand on va au travail, tout à coup, il y a l'identité travail qui s'active et puis le travail est en haut de la liste des priorités, de la hiérarchie des priorités. Et quand on reste chez soi, en fait, il y a une confusion entre les différents types de priorités.
Quand on télétravaille, on est à la fois celui qui travaille ou celle qui travaille, mais aussi la maman ou le papa.
Il y a la machine, il y a l'autre chose. Et puis finalement, le travail perd même de sa réalité. En fait, on a l'impression que c'est un peu... Et puis il y a un mécanisme disciplinant des temps sociaux, du fait de sortir de chez soi, d'aller au travail, etc., qui fait que pour des gens qui sont un petit peu dépendants d'une organisation extérieure, ça leur fait du bien. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui sont autotéliques, comme dit Csikszentmihalyi, qui n'ont pas besoin du tout d'autrui ni des temps sociaux. Mais c'est vraiment une infime minorité.
On fait une pause, Claudia Sénic, et on en reparle juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Claudia Sénic, l'auteur de L'économie du bonheur, mais pas seulement. Cette année, vous avez publié Bien-être au travail, ce qui compte, aux presses de Sciences Po. Et puis un autre livre qui vient de sortir... Crise de confiance avec un point d'interrogation. On en reparlera de celui-là, mais restons sur le travail puisque c'est une année très spéciale, 2020. On a dû être heureux de retrouver nos entreprises.
J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les gens retournent au travail et ont hâte d'y retourner. C'est d'ailleurs intéressant, je trouve, de voir si on laisse la possibilité aux gens de retourner au travail, qui va revenir et pour quelles raisons. Est-ce qu'on veut revenir quand on travaille avec d'autres gens, quand on interagit, ou est-ce qu'on veut revenir quand, au contraire, on a un travail très solitaire et qu'on a besoin d'être avec d'autres gens dans un même lieu ? En fait, on se rend compte de nouveau, après cette grande vague de numérisation et de distanciation des rapports humains, on se rend compte de l'importance du local, de l'endroit, de l'espace, de l'architecture
même. Et du groupe aussi, d'après ce que vous dites. Y a la même chose chez les élèves du supérieur, les lycéens. Avaient envie de retourner en classe. Beaucoup ont souffert du téléenseignement.
Ben, c'est encore le cas, en fait. Ils sont toujours pas retournés. Non, ça, c'est vraiment terrible. En fait, c'est pour eux que c'est le plus terrible. Parce que, franchement, les cours, je pense que les cours de lycée par Zoom, je crois que c'est très, très ennuyeux. C'est très difficile. Et puis, en fait, c'est le moment où on a besoin des autres pour se construire, pour se faire des amitiés. C'est l'époque de l'éducation sentimentale, quand même, le lycée et puis l'université. Et là, il ne se passe rien, chacun est isolé. Je pense que pour eux, c'est vraiment terrible.
C'est marrant parce qu'on croit qu'on est très individualiste. C'est devenu un cliché. On dit aujourd'hui qu'on est tous l'individualisme. Au fond, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a besoin de s'intégrer, on a besoin du groupe, on a besoin de l'approbation des autres, on a besoin d'être accepté en permanence et pas seulement sur les réseaux sociaux.
Oui, on a besoin d'exister en tant qu'individu, on veut être libre, faire ses choix, se différencier, et en même temps, on est sans arrêt en train de faire de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, prendre des photos absurdes qui correspondent à des poses. Donc on construit une sorte de spectacle de soi.
À son travail aussi, au fond, on a envie d'être celui qui est drôle, ou d'être celui qui rend service.
Il y a des rôles, bien sûr, dans le travail. Et puis le climat social, comme on dit, c'est extrêmement important, c'est vraiment un des facteurs de bien-être au travail. Les plus importants, c'est-à-dire la qualité des relations avec les autres dans l'entreprise.
Claudia Sénic, pourquoi les femmes sont plus heureuses que les hommes ?
Alors en dehors des raisons classiques liées à la maternité, le corps, etc., c'est pas mon domaine, mais moi j'ai une hypothèse en fait, qu'on est en train de regarder avec des co-auteurs, c'est que ça tient à la manière dont on utilise notre temps. C'est qu'en fait, ce qui compte finalement à la fin dans la vie, c'est ce qu'on fait de son temps, le temps qui nous est imparti. Et donc on peut, avec les enquêtes emploi du temps, regarder ce que font les gens dans la journée ou dans la semaine. Et on peut penser qu'en fait, l'utilisation du temps, les activités, c'est comme la consommation. C'est qu'il faut varier, il faut diversifier un peu, sinon au bout d'un moment, quand on fait toujours la même chose, on se lasse. Or, les femmes ont des activités plus diversifiées que les hommes. Parce que simplement, la société les autorise à le faire, à avoir plusieurs cordes à leur arc, à avoir des activités, des domaines d'investissement différents, les relations sociales, etc. Et donc, elles n'ont pas uniquement comme seule source de valorisation le travail, disons, rémunéré.
Vous voulez dire que le travail domestique, par exemple, fait partie de cette diversification qui les valorise ?
Pas forcément le travail domestique, ça peut être aussi d'autres activités créatrices, ça peut être les relations avec les autres, ça peut être le fait de s'occuper d'autrui. Enfin, de toute façon, tout ça est possible et valorisé. Et donc, on voit de manière empirique dans les données le lien positif entre le fait d'avoir des activités variées et le fait d'être heureux. Mais ce n'est pas que pour les femmes, pour les hommes aussi.
Donc, les hommes qui ont le plus d'activités diversifiées sont
plus heureux
que
ceux qui sont polars. Bon, il y a peut-être des gens qui sont très polars, c'est-à-dire qui ont des rendements croissants, qui retirent un bonheur toujours plus grand de faire toujours encore la même chose, mais ce n'est pas la majorité. Donc le modèle féminin, finalement, est plus libre que le modèle standard masculin.
Le local, vous en parliez tout à l'heure. Vous avez une théorie sur les supérettes, au fond.
Une théorie sur les supérettes.
Il y aurait un rapport entre l'existence des supérettes et le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, en partie, c'est un peu le retour de la géographie. Un peu comme tout à l'heure, on parlait du local. C'est le fait que les forces de développement économique conduisent à des grandes disparités spatiales. Il y a une concentration des activités, comme on sait, dans les métropoles, et puis des zones que certains ont appelées France périphérique, qui perdent la vie sociale, qui perdent les commerces, qui perdent les services publics, qui perdent la population, qui vieillissent. Et ça, c'est complètement déprimant. Et on a pu mettre en évidence, dans une note du Conseil d'analyse économique, avec des co-auteurs, le fait que dans les communes qui perdaient justement, notamment leur dernière supérette, la probabilité d'avoir connu un rassemblement des Gilets jaunes au début du mouvement était de 20%, alors que en France, en moyenne, c'était 8%. Donc, effectivement, pourquoi ? Parce que la supérette, c'est la dernière chose qui ferme. Quand il ne reste plus que ça, donc c'est assez symptomatique.
Je parlais de crise de confiance avec un point d'interrogation qui est un livre collectif dont vous avez dirigé la rédaction, qui est paru à la Découverte. Cette crise de confiance, tout le monde en parle. Elle touche le gouvernement, les scientifiques, les médias. Mais comment en sortir ? Vous avez trouvé ça ?
comment en sortir ? Par contraposer, quoi. Qu'est-ce que confiance ? C'est le fait de sentir qu'on est avec des gens dont on partage les valeurs, dont on partage le destin. Donc un projet commun, un fond commun, un fond d'existence commune. C'est-à-dire ce qu'on partage, peut-être les biens publics. Par exemple, en France, la santé, l'éducation, la sécurité, etc. C'est des biens publics, gratuits, que tout le monde partage de la même manière. Donc ça, normalement, ça devrait se faire sentir dans un espace commun. Puis après, c'est probablement un ennemi commun aussi. Ça peut aider. Donc là, bah, là le Covid est tout trouvé, la restriction des libertés éventuellement, la menace terroriste islamiste, bah, ça, c'est des ennemis communs qui ressoudent et qui refondent là, le sentiment de l'identité commune. Ça crée la confiance entre les citoyens et puis après, confiance dans le gouvernement, il faut qu'on sente qu'on est entre les mains de gens compétents, bienveillants et puis qui partagent les mêmes valeurs. Je pense que c'est ça.
Ben voilà un programme pour l'année prochaine. Merci Claudia Sénic.
Merci à vous.
Je rappelle bah, le titre du tout dernier, hein, Crise de confiance, avec un point d'interrogation qui est paru aux éditions de La Découverte.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. On passe un très bon week-end. Rendez-vous demain matin à 9h. En attendant, vous avez rendez-vous avec Catherine Ney, Olivier Duhamel pour Mediapolis. Quel est votre programme, Olivier ?
Oh, plein de choses et on va en parler avec un regard large puisque c'est celui de Jean-Dominique Giulani qui préside la Fondation européenne Robert Schuman.
Passez une très bonne émission.